Bienvenue dans notre émission Ondes du Vivre Ensemble, une émission réalisée dans le cadre du projet Ondes du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration.
Lors de cette émission d'information du mois d'avril sur le thème de la culture française, une culture culinaire est à l'honneur sur Eau de Radio avec Olivier Straeli, animateur de l'émission Étiquette Toc et chef cuisinier à la Maison des Cinq Sens à Bordeaux. Vous allez entendre aussi d'autres chefs et photographes culinaires de la région Aquitaine qui l'accompagnent sur ce beau plateau. On les écoute.
Eh bien bonjour, bienvenue sur Eau de Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission culinaire Éthique et Toc. Aujourd'hui, nous avons en présence Philippe Exbraya qui va m'accompagner toute cet après-midi pour parler de cuisine.
Bonjour aux auditeurs.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Très bien.
Oui, mais bon, avec ce beau temps, tout va aller bien.
Mais très bien.
Donc aujourd'hui, on va avoir le plaisir, bien sûr, d'avoir au fur et à mesure des chefs qui vont parler de leur activité. Et puis, je voulais moi juste, avant de commencer, vous faire mon petit sentiment sur la cuisine d'aujourd'hui. Donc voilà mon ressenti. Donc pour moi, le repas à la française, sachez-le, est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Et puis nos chefs voyagent dans le monde pour promouvoir notre savoir-faire et notre culture gastronomique. Et c'est pour autant que le comportement quotidien a changé. La cuisine est au cœur de notre culture et pourtant aujourd'hui, tout semble partir à volant. Exemple, le scandale de la viande hache de cheval qu'on a incorporé dans les plats préparés. Bon, certains, je sais bien, diraient que la viande de cheval est consommable. Certes, mais alors, où est la transparence? À quoi servent les étiquettes? Et surtout, on vous sert quoi dans vos assiettes? Les restaurateurs sont aussi mis au banc des accusés pour leur soi-disant fait maison. Mais faudrait-il pas mieux alors légiférer pour harmoniser tout cet ensemble? Dans cette nébuleuse culinaire, il y a bien sûr des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour vous servir des plats de bonne qualité. Et puis certains, pour eux, c'est l'ultime reconnaissance d'être inscrit au fameux guide rouge, source de chiffre d'affaires supplémentaires. Et d'autres se disputent lors du CIRA, le Bocuse d'or pour les cuisiniers, et les pâtissiers, eux, ont leur championnat du monde. D'ailleurs, cette manifestation devient alors un véritable tremplin international pour une carrière et une représentation mondiale du pays vainqueur. Et sachez-le, cette année, qui c'est qui a gagné? C'est la France.
Tout à fait.
Ça faisait très longtemps que...
Cocorico.
Tout à fait, que la France n'avait pas fait doubler. On a gagné à la fois la pâtisserie et à la fois... la cuisine. Ça faisait depuis 2007 qu'on attendait notre cuisinier français. Donc en cette période de crise, l'alimentation reste bien sûr un enjeu économique et la cuisine reste bien sûr source de débat. C'est ce que nous allons essayer de faire tous ensemble aujourd'hui dans notre émission Éthique et Toc. Et on aura en présence le chef Thomas Lérisson du restaurant L'Auberge à Saint-Jean. Voilà.
Saint-Jean de Gagnac.
Voilà. On aura bien sûr Vincent Poussard qui est lui le chef animateur du Quai des Saveurs. Le chef Romain Cruche des Dîners d'Héloïse. Et enfin, on aura aussi le chef pâtissier Luc Dorin pour nous raconter quelques gourmandises de la semaine de Pâques.
Gourmandises.
Bien, Philippe, des petites choses, des petites brèves pour commencer.
Le data au service de votre fourchette, par exemple.
Ah ben c'est quoi ça?
En fait, il faut surveiller son alimentation en collectant les données de ce que vous mangez et comment est-ce que vous bougez. Les data s'invitent dans les assiettes. Fourchette connectée et application web suivent à la trace votre alimentation. Un seul objectif, manger mieux. De la simple application mobile à la fourchette, il est désormais temps de nous prendre par la main pour changer nos mauvaises habitudes alimentaires. Et si vous pensiez faire ça en cachette, c'est raté. Ce sont vos amis qui vous diront ce que vous mangez, et bien ou mal. En bien ou en mal.
Eh bien, tout ça, c'était quoi? C'était au salon du Sierra à Lyon, hein, en janvier. Donc voilà, ça annonce déjà un petit peu notre thème de la cuisine innovante qu'il y a eu au Sierra à Lyon. On va bien sûr parler du Bocuse d'Or, du champion du monde de pâtisserie. Alors, le champion du monde de cuisine, Philippe, est-ce que tu connais le nom?
Thibaut Ruggieri.
Oui.
Thibaut Ruggieri, oui.
Ah oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc lui, il a combattu devant 23 chefs.
Oui, ouais. C'était pas une mince affaire.
C'était pas une mince affaire. Voilà, puis on parlera aussi donc du champion de pâtisserie qui lui, ils sont plutôt trois. Hein, ce sont trois pâtissiers parce que là, ils ont pas mal de boulot. C'est Quentin Bailly, Mathieu Blandin et Geoffrey Lafontaine qui ont donc représenté la France et ont remporté le fameux concours de pâtisserie. On en parlera bien sûr et on ouvrira notre page débat avec. On va dire comme un petit peu ce que nous a annoncé Philippe, le côté santé dans la cuisine.
Voilà, tout à fait.
On en parlera tout à l'heure dans notre débat.
Absolument.
Georgiana, on peut se faire une petite pause musicale, le temps peut-être d'appeler un des chefs.
Bien sûr, on peut mettre Assaf Avidan, donc voilà.
Et ben voilà,
song. Très bien.
C'est tout de suite.
One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.
Eh bien voilà, Assaf Avidan qui va nous permettre Ben de commencer par présenter les chefs qu'on va avoir cet après-midi en ligne, parce que bien sûr les chefs ils sont derrière leur fourneau, c'est leur job. De temps en temps ils ont le temps de venir nous rejoindre ici sur le plateau, mais nous sommes sur la semaine de Pâques, il faut quand même se rappeler que fin de semaine c'est déjà Pâques, donc ils sont tous bien occupés. Et là on devrait avoir bientôt en ligne peut-être Vincent Poussard. Alors Vincent Poussard, qui c'est ? Vincent Poussard, on pourrait dire que c'est le petit rigolo de service. Eh ben non, vous y trompez pas, c'est un homme qui nul doute, cela fait un véritable troublion, qui est légèrement agaçant par son aplomb, est tellement humaniste. Il ose d'ailleurs casser les codes et chercher à mettre la convivialité au cœur de sa cuisine. Après avoir exercé son métier de cuisinier de Porto Vecchio à Belfast, en passant par Montréal, il dépose ses casseroles au 54. Ah oui, le 54 à Paris. Qui c'est? Tu sais ce que c'est que le 54 à Paris, Philippe? Non, c'est l'Élysée. On l'appelle comme ça.
D'accord, le 54.
Oui, parce qu'en fait, c'est la porte de derrière. Et si on est au 54.
Où on ne fait juste que passer devant.
On fait juste que passer. Nous, on ne fait que passer. Mais lui, il a eu cette chance-là. Il a eu cette chance-là de pouvoir travailler à l'Élysée. Et oui, donc il a fait partie de ces hommes du président sous François Mitterrand. Aujourd'hui, il transmet sa passion en tant que chef animateur de l'école de cuisine Quai des Saveurs à Bordeaux, donne des cours au lycée hôtelier, et en plus il assure des shows culinaires pour les produits d'Aquitaine un peu partout. Alors d'ailleurs, c'est un petit cuistot hein, de 1m75, mais je dirais un pur terroir. Voilà un petit peu qui est Vincent Poussard. Et je crois que en ligne, on a actuellement Romain Cruche. Bonjour Romain.
Bonjour Olivier.
Bonjour, comment ça va? Alors Romain, tu es chef de cuisine pour les dîners des Louises actuellement, mais tu as eu la chance de commencer, je dirais, ton métier dans un très grand restaurant qui est aujourd'hui 3 étoiles, qui est à Saint-Tropez. Oui. Romain, je ne t'ai plus. Ah, je crois qu'on a perdu Romain en ligne. On va essayer de le retrouver. Alors voilà, donc Romain est un jeune chef qui a eu donc l'occasion de démarrer sa carrière dans les années 2004 auprès d'un restaurant gastronomique à Saint-Tropez qui est la résidence de la Pinède. Après, il va faire quelques saisons au niveau de Courchevel, et puis Val d'Isère, où il va faire ses armes auprès de grandes maisons étoilées, comme les Barmes de l'Ours à Val d'Isère. Et il reviendra toujours vers Saint-Tropez, vers la résidence de la Pinède, qui d'ailleurs cette année a eu 3 étoiles.
Tout à fait.
T'as déjà eu l'occasion d'aller photographier des plats là-bas?
Non. À Courchevel, oui.
Oui.
Avec un chef qui s'appelait Jacob. À l'époque.
Ouais.
Mais là-bas, non.
D'accord. Donc après son étape à Val d'Isère, il va intégrer à partir de juin 2009 le restaurant Les Sources de Caudalie à Martillac où bien sûr il va travailler avec Nicolas Masse auprès donc des Sources de Caudalie. Très bien. On t'a retrouvé Romain. Super.
Oui Olivier, bonjour.
Bonjour, voilà. Donc j'expliquais un petit peu ce que tu avais fait, ton petit parcours mais qui est dans les grandes maisons, et on finissait par Les Sources de Caudalie qui était ta dernière demeure, je dirais, avant de devenir le chef cuisinier des dîners des Louises, que tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est juste après. Donc je disais juste avant qu'on te perde, tu as commencé ta carrière à la résidence de la Pinède.
Oui, tout à fait, mais sorti de l'école hôtelière, où j'ai empoché mon bac pro, j'ai cherché tout de suite une maison pour apprendre le métier et pouvoir apprendre rapidement, et mon choix s'est porté sur la résidence de la Pinède qui à l'époque avait une étoile avec un jeune chef qui venait d'arriver, donc Arnaud Donquel.
Ouais.
Et là j'ai été pris en main tout de suite parce que vous savez, on est dans les saisons à Saint-Tropez, plein mois de juillet, il faut tout de suite mettre dans la cadence parce que c'est des rythmes de travail très soutenus.
D'accord.
Mais avec l'encadrement et un chef passionné qui vous transmet sa passion, ça va, quoi. Ça fait des journées dures, mais toujours dans la bonne humeur, et on apprend sans cesse.
D'accord.
C'est parfait pour commencer, pour évoluer.
D'accord. Et après quelques saisons à Val d'Isère pour profiter de la neige,
voilà, tout à fait,
c'est
ouais.
Ça
à Val d'Isère, donc j'ai fait 5 saisons au Barmes de l'Ours.
Ouais.
Où il y a eu successivement 2 chefs, Alain Lamaison qui est arrivé, qui a récupéré une étoile qu'il avait précédemment à lui.
Ouais.
Et après il est parti et c'est son second, Anthony Maubert, qui a su garder l'étoile et continuer son chemin.
D'accord.
Son chemin.
Et qu'est-ce qui fait que on bouge comme ça de maison en maison?
En fait, c'est l'envie de changement. On sait qu'on est là pour 5 mois, que ça va être dur, ça va être intense, mais en même temps, on peut profiter de la montagne pour l'hiver. Donc déjà, c'est quand même un cadre de travail qui est relativement sympathique. Quand on peut aller skier tous les jours, ne serait-ce que pendant la coupure, c'est quand même agréable. Et puis l'après-midi à la plage, à l'été, quoi. Donc, c'est quand même un cadre de travail qui a ses deux facettes. Il y a le côté dur du travail parce qu'on est en saison et qu'on est dans des grandes maisons.
D'accord.
Mais à côté de ça, les à côté, c'est quand même très sympathique, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce qui va te pousser à venir vers la région d'Aquitaine et se poser aux sources de Caudalie?
Alors, c'était vraiment par hasard. J'étais venu pour la saison aux sources de Caudalie parce qu'avec mon ami, on a toujours voulu travailler dans le sud-ouest. On n'avait pas de point de chute prédéfini. On s'était dit, on va chercher, on va se renseigner, savoir là où il y a des postes pour nous deux. Et puis, ça s'est fait en une après-midi. On a envoyé tous les deux notre CV. Ça a été accepté le jour même. J'ai appris le jour même que c'était un nouveau chef qui venait, parce que je connaissais pas bien le fonctionnement de la maison. On m'a dit que c'était Nicolas Mas.
Oui.
Donc je me suis renseigné, c'était un étoilé Michelin à Saint-Jean-de-Luz.
Oui.
Et donc voilà, on est arrivé avec un mois d'intervalle sans le savoir. Et puis j'y suis venu pour la saison, je suis venu pour 4 mois et au final ça va faire bientôt 4 ans qu'on est.
Que tu as travaillé
dans la région.
Voilà, dans la région, travaillé pour les sources de Caudalie.
Voilà,
et tu as contribué, bien sûr, à cette obtention de l'étoile pour Nicolas Mas. Alors, c'est quoi l'étoile? Ça représente quoi au sein d'une grande maison? Est-ce que c'est effectivement les chefs vont se battre pour essayer d'avoir cette étoile ou c'est, la cerise sur le gâteau du travail fourni tout au long de la saison ou des saisons? Oui. Romain?
On a à nouveau perdu
Romain. Mais c'est pas grave, on va essayer de continuer sans Romain, on va essayer de le revoir un petit peu partout.
Bon,
non, ça y est, tu ouais. voilà. Donc tu voulais pas répondre à la question. Voilà, c'est ça, dès qu'on pose une question à un chef en disant est-ce que le guide Michelin, le fameux guide rouge, ça vous met du stress, voilà.
Non, ils
en perdent la voix.
il était tombé sur la table.
Non,
c'est pas vrai
ça. Non, mais pour revenir à ta question, l'étoile, c'est quand même une récompense sur un travail qui est fourni, quoi.
Oui.
C'est ça récompense aussi bien la cuisine que la salle, parce qu'il faut pas oublier que la salle, pour l'étoile, a un rôle primordial.
Oui, c'était vraiment un travail d'équipe. Hein,
c'est l'un de Vincent, l'autre, c'est vraiment un travail d'équipe.
Voilà.
Et l'étoile, après, c'est une satisfaction, quoi. Quand on sait qu'on travaille pour un restaurant qui a une étoile, deux étoiles ou trois étoiles, c'est quand même une satisfaction personnelle.
D'accord. Alors, quelle différence entre pas d'étoile, avoir un bib au sein de guide Michelin, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Qu'est-ce qui change dans la cuisine ou dans la préparation de la cuisine? Est-ce qu'il y a vraiment des vu que toi tu as pu tout
pour
faire
pour le bib, je crois que si je veux pas dire de bêtises, c'est une bonne table.
Oui.
Pour un prix abordable.
Voilà,
c'est
ça.
Le prix
du
menu doit être relativement autour de 35 euros maximum.
C'est ça, on est bien d'accord.
Mais avec une qualité irréprochable.
Voilà. Ça veut dire que ce sont les futurs étoilés. Enfin, c'est ceux qui sont en devenir.
Voilà.
Hein, d'accord. C'est sur ce
chemin. Enfin, souvent c'est ça.
D'accord.
Après pour l'étoile, c'est vraiment comment dire. C'est une étoile. C'est le début de quelque chose de très bien. Donc on est déjà dans un bel établissement avec une belle cuisine, des produits nobles. Donc ça aide beaucoup, le travail en salle qui aide beaucoup. Et après 2-3 étoiles, là on part sur plus la constance du travail d'année en année. Ça 2 étoiles, ça vient pas comme ça. Il y a toujours des étapes, 1 étoile, 2 étoiles, et puis plus tard 3 pour les meilleurs.
D'accord.
Le principe, c'est vraiment la régularité et puis avoir des beaux produits de saison, travailler au bon moment et avec des cuissons et une justesse, en fait.
Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est la continuité du travail quand on monte en deuxième ou en troisième étoile, ou alors c'est l'originalité des plats, la technicité qui évolue?
Je pense qu'il y a l'originalité, on monte toujours en niveau, donc ce qui fait que quand on monte en niveau, il y a les techniques qui sont plus compliquées, il y a le travail en salle qui est plus recherché, le sommelier qui fait plus de travail. C'est un ensemble. Il faut que la cuisine soit irréprochable, ne serait-ce qu'au niveau des assaisonnements, des cuissons, des accords sur les textures. C'est là où on voit la différence entre 1, 2, 3 étoiles. C'est que l'assiette parle d'elle-même, quoi. Il faut que ce soit vraiment irréprochable et que tout soit parfait.
L'émotion aussi.
Ouais. Oui. Philippe disait l'émotion.
Je lui dis bonjour parce que il me connaît en fait. Je suis Philippe Exbrayen, photographe. On s'est vu une fois, je crois.
Oui.
Bon. Je disais, ce qui fait aussi peut-être le niveau une étoile, deux étoiles, c'est l'émotion que ressent le client, non?
Oui.
C'est arrive. Je suis photographe. Alors évidemment, ça me parle, mais c'est vrai que quand on voit l'assiette arriver, soit on est bluffé, soit on n'est pas bluffé. Donc je pense que ça se joue aussi là-dessus.
C'est le visuel.
Le visuel est très important.
Le goût est quand même primordial.
Oui, mais il vient juste après. Oui.
Très graphique. On peut avoir des assiettes très graphiques.
Oui.
Mais où au goût, on n'a pas l'émotion qu'on a avec la vue. Donc des fois, c'est un peu embêtant.
Oui. Je trouve que c'est une démarche quand même réunis, qui est sensuelle. Hein.
Quand les deux sont réunis, c'est vraiment un moment exceptionnel.
Oui, voilà.
Vous êtes au bon moment. C'est juste quoi.
D'accord. Et toi, tu as eu la chance, tu me disais dernièrement, d'avoir travaillé dans le seul restaurant qui a eu cette année un 3 étoiles.
Mais voilà, à Saint-Tropez,
oui.
à la Pinède avec Arnaud Donquel, c'est là où j'ai commencé. J'ai fait quatre saisons.
Oui.
Quatre saisons où j'ai évolué d'année en année, ce qui est quand même pas négligeable et qui est quand même très bien par rapport au niveau du management, c'est que les gens restaient dans l'entreprise parce que d'année en année on évoluait et la cuisine évoluait sans cesse.
D'accord.
Donc tu sais que c'est une chance d'avoir travaillé là-haut, quoi.
D'accord. Après tu parlais d'une chose qui effectivement on parle toujours en cuisine l'assaisonnement et la cuisson. Hein. Alors,
voilà.
Est-ce qu'en quelques mots tu pourrais expliquer aux auditeurs de Haut de Radio qu'est-ce que ça veut dire quand ta chef dit je veux que ça soit l'assaisonnement qui en premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire juste du sel et du poivre. Hein. C'est quoi l'assaisonnement?
Non. Il faut d'abord tout expliquer que le sel est un exhausteur de goût.
Oui.
Donc ce qui fait qu'il révèle le goût du produit. Donc c'est important de pas être sous-assaisonné ou sur-assaisonné. L'important c'est d'avoir l'assaisonnement juste qui met en valeur le produit parce que le sel c'est un exhausteur. Donc ce qui fait que sur n'importe quel aliment ou sur n'importe quelle cuisson, le sel est important. Parce que c'est ce qui va faire ressortir l'eau de végétation, c'est ce qui va faut faire attention sur certaines viandes, ça peut faire sortir le sang sur le poisson, c'est le sel, on croirait pas comme ça, mais avoir un assaisonnement juste, c'est très compliqué.
D'accord.
Au fur et à mesure alors.
Voilà, c'est ça la question qu'on était en train de se poser avec Philippe.
À chaque stade de la confection de la recette, il faut goûter.
Donc. Voilà. Mais
alors
le sel on le met quoi? Plutôt en début de cuisson ou en fin de cuisson?
Il vaut mieux être en début parce que le produit vaut mieux qu'il cuise avec le sel parce qu'il faut qu'il s'imprègne dans l'aliment.
Non, mais c'est sûr.
Et à la fin, qui est toujours bien sur un plat, c'est toujours une petite pointe de fleur de sel qui fait un petit côté craquant sur la viande, le poisson, le légume, il y a toujours ce petit côté craquant de la fleur de sel qui vient sous la dent.
Et quel type de fleur de sel plutôt sel de Guérande ou celle de l'île de Ré
De Guérande.
La fleur de sel de l'île de Ré est très bonne, Guérande aussi, mais après il y a aussi le sel de Camargue qui est pas mal.
Ouais, d'accord.
Mais il faut choisir la bonne fleur de sel par rapport à l'aliment, mais la fleur de sel de Guérande.
Mais la chef.
Pas trop humide. Un peu séchée quand même, il faut la faire un tout petit peu sécher, donc vous la mettez juste à l'air libre 2-3 jours, et il y a un peu l'eau qui va ressortir, et ce sera un tout petit peu, mais ça sera moins humide, ça sera un peu plus craquante.
D'accord.
Ah, super.
Encore une dernière des choses, et après on va te laisser officier, parce que je pense que ce soir tu dois avoir du travail,
hein,
t'as un repas ce soir, on parlera après des dîners d'Héloïse.
Ouais.
As-tu suivi un petit peu les Bocuse d'Or de cette année?
Oui, je l'ai suivi par internet.
D'accord.
En live.
Et alors, c'est quoi cette joute culinaire? Est-ce que, vu que étant professionnel, comment tu la vois avec ton œil de professionnel?
C'est un concours de très haut niveau.
Oui.
Au niveau de la gastronomie française, c'est vraiment le travail au plat.
Oui.
Sur des techniques mais de base, mais qu'il faut réaliser à la perfection. Là, il n'y a pas de place sur ce genre d'événement à l'approximation. Tout doit être réalisé parfaitement, les cuissons, les assaisonnements, les dressages, les températures, tout est là, on est sur du très très haut niveau. Et ça s'est vu par rapport au Français qui a gagné, son plateau était juste magnifique à la sortie, quoi.
Ouais,
aussi c'est bien visuel qu'en goût, je pense qu'en goût ça devait être juste extraordinaire et le visuel était magnifique.
Mmh, c'est vrai que c'était ce qu'avait fait le chef Thibaut Ruggieri, qui fait partie, voilà, de la maison, ouais, Le Nôtre, effectivement, c'était vraiment, ouais, quelque, ouais, chose de très important. Et en plus, nous Français, on n'avait pas réussi depuis 2007 à remporter le Bocuse.
Parce qu'il y avait les pays nordiques étaient venus en force sur ces dernières années où il y a eu un chef danois qui a réussi au monde à avoir le Bocuse bronze.
Ouais.
Après il est revenu, il a eu le Bocuse d'argent, ouais, il est revenu, il a eu le Bocuse d'or. Donc c'était, ouais, vraiment compliqué pour les Français parce que la concurrence était vraiment dure par ces pays nordiques qui sont, ouais, en train de monter au niveau de la gastronomie. Mm-hmm. Mais c'était bien que cette année on l'ait parce que ça prouve que vraiment la France a une grande place à jouer dans la gastronomie mondiale et qu'on n'a rien à envier aux pays européens qui nous entourent.
Bah, ça veut dire que les autres nous rattrapent aussi, donc ça donne des challenges aussi plus intéressants.
Ouais. Voilà. Bon, le niveau un peu plus haut.
Bien sûr. Romain, aujourd'hui, tu es chef des dîners d'Héloïse d'Aquitaine.
Dîners d'Héloïse, voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les dîners d'Héloïse?
Donc, les dîners d'Héloïse, c'est une marque de chef à domicile.
Oui.
Donc, qui existait à Paris depuis 2008.
Oui.
Donc c'est une marque qui revendique une cuisine gastronomique en embauchant que des chefs qui sont issus de la restauration étoilée. Donc pour avoir un gage de qualité, un gage de sérieux dans les assiettes.
D'accord.
Et donc le principe c'est que le chef arrive chez le client 2 heures avant.
Oui.
Pour pas bloquer le client toute la journée ou sur une demi-journée. Et s'occupe de tout. Donc il va mettre la table, il va s'occuper de tout ce qui est vaisselle, l'art de la table. Et puis au moment venu, le chef il s'occupe de tout. Vous n'avez plus qu'à. Vous êtes chez vous, vous mettez les pieds sous la table et vous êtes comme au restaurant. On essaie de retranscrire un peu le restaurant, mais à la maison.
Le restaurant vraiment à la maison. D'accord.
Voilà, c'est ça.
Et il faut compter combien un petit peu par convive? Vous avez différents types de menus.
Oui. Donc on est parti sur 3 menus, donc on a un premier menu à 60 euros.
Oui.
Donc c'est sur des produits basés sur des produits du marché de haut de gamme quand même, la lotte, du cabillaud, du bon dos de cabillaud pêché à la ligne et tout ça. Mais vraiment, où là j'insiste, c'est des produits qu'on essaye de mettre en avant et bien travailler, quoi.
D'accord.
Et après, on passe sur un menu à 80 euros. Donc là, on va partir sur des choses un peu plus nobles, la langoustine, le caviar en poisson. On va avoir du turbo, on peut avoir du homard.
D'accord.
Donc là, on est sur une gamme supérieure avec là où j'essaye de faire une cuisine relativement simple mais juste, où je pars pas dans tous les sens. J'essaye vraiment d'axer ma cuisine sur le produit.
D'accord.
Et après on a la formule à 105 euros, c'est le menu dégustation, donc là qui comprend vraiment tout. Vous avez des pièces cocktail pour l'apéritif, l'amuse-bouche, une entrée, un poisson, une viande, une assiette avec 3 fromages et le dessert et les mignardises.
Ah ouais, pas mal quand même.
Donc c'est relativement complet.
Ouais. Et le vin c'est le client qui le fournit.
Le vin c'est le client qui peut piocher dans sa cave, ou nous on a une carte des vins où le client peut piocher aussi dans ce qu'on a. Donc on a une très très belle carte des vins.
D'accord.
Locale et aussi sur la Bourgogne un peu, sur le sud de la France.
On n'est pas
axé vraiment sur le Bordelais.
Il y a une adresse internet où on peut se voir les dîners d'Héloïse.
Voilà, sur lesdinersdheloise.fr, c'est l'adresse, c'est notre site internet.
D'accord, donc
il faut bien piocher sur le site internet avec la région Aquitaine, parce qu'on a aussi la région Île-de-France, mais il y a la région Aquitaine et vous aurez toutes les informations disponibles sur le site.
D'accord, donc on a beaucoup de chance en Aquitaine d'avoir en fait les dîners d'Héloïse, vu que c'est la première délocalisation des dîners d'Héloïse.
Voilà,
d'accord.
Tout à fait.
Très
tout
bien.
À
fait. Romain, on va juste finir par une petite interview. Pour qu'on puisse un petit peu cerner le chef Romain Cruche. Et puis, je te dis à très bientôt sur différentes rencontres culinaires. Et merci de ta participation. Je te laisse
entre les mains
de Philippe, l'expert en interview.
Bonjour Romain. Une question un petit peu bateau, mais quand même importante.
Oui.
La première émotion culinaire, avec quelle recette ça s'est produit ça?
Donc je pense que je vais faire simple, c'est quand j'étais très petit, parce que je viens d'une famille de restaurateurs.
Et
c'était quand j'étais en cuisine avec mon grand-père,
qui
était cuisinier. Et je pense que c'est sur un plat alsacien, un bec d'euro.
Ah oui, oui d'accord.
Là, on va serrer les coudes, parce qu'on est très peu. Romain, je suis bien d'accord avec toi, un bec d'euro, c'est super.
Ça paraît pas glamour comme ça, mais quand c'est très bien fait et que le plat qui s'ouvre et vous avez tout à fumer là, qui arrive dans le nez, que vous êtes tout petit, vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse cocotte et qu'après vous l'avez dans l'assiette. Là, c'est quelque chose de relativement.
Bah, je trouve ça touchant et je trouve ça génial de repenser à une recette quand tu étais jeune. C'est sûr que je trouve ça très sympa. Alors, on va rejoindre un peu mon domaine. Ton livre préféré?
Mon livre
préféré. Attention de bien répondre. non, je rigole.
Ça va être un livre culinaire.
Oui, bien sûr. Oui, c'est de ça que je parlais.
J'en ai deux. Honnêtement, pour être franc, j'en ai deux vraiment que je trouve magnifiques. C'est le livre d'Éric Fréchon sur le chef cuisinier du Bristol.
Ah oui.
Et Georges Klein à Lawrenceburg. C'est 2-3 étoiles. Et,
d'accord.
Les deux livres sont totalement différents, mais ça révèle bien les deux cuisines différentes. C'est là où on peut voir qu'il y a vraiment plein de styles de cuisine. À 3 étoiles.
Et ce qui te touche dans ces livres, c'est déjà les visuels ou beaucoup plus quand même les choix de recettes et les produits?
Honnêtement, les visuels, parce que là, on voit qu'il y a vraiment un travail avec le photographe.
Ouais.
Sur les jeux de couleurs, quand il y a la viande qui est un peu en l'air, ou ça brille, où tout est mis en valeur. Juste de voir la photo, ça donne vraiment envie d'aller dans ce restaurant, manger les plats. Donc, je pense que là, quand on arrive à ça, voir une recette sur un livre et vraiment avoir envie d'aller au restaurant, je pense que là, c'est gagné.
Et ça, c'est le résultat de la complicité des deux, c'est sûr, du chef et du photographe, c'est certain.
Ouais.
Bah, très bien. Une petite... Qu'est-ce que tu as mangé hier?
Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Alors, hier soir, j'ai mangé un coquelet avec très bien. Des frites.
Parfait. Bah écoute, voilà. merci pour bien. Le temps passé avec nous.
Voilà.
De rien.
Merci Romain Kurch, donc le chef des Dîners d'Héloïse. Allez vous connecter sur le site des Dîners d'Héloïse en cliquant Aquitaine. Et c'est Romain qui vient à la maison. Voilà.
Oui.
Merci bien Romain.
Merci.
Très bientôt.
Merci Romain.
Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et bien voilà, on va continuer tout doucement avec une petite pause musicale parce que je crois que derrière on a effectivement Vincent Poussard qu'on a réussi à avoir en ligne tout à l'heure. On va juste mettre une musique qu'il adore parce que ça je connais le chef et c'est U2 de mémoire, hein, Georgiana, c'est ça que tu vas nous passer.
Oui, voilà, U2, Bloody Sunday, c'est à ce qui paraît sa chanson préférée et c'est pas mal quand même U2, hein, il a bien choisi.
Ouais, il a bien choisi. Hein. Allez, on lance la musique et puis on va l'appeler.
On va l'appeler, c'est tout de suite U2 Bloody Sunday sur de radio. We'll
bien voici la musique donc de U2 qui était pour Vincent Poussard. Alors on a quelques petits problèmes de téléphone avec Vincent. Alors Vincent, si tu nous entends, s'il te plaît, arrête d'appeler ta femme. Vincent, arrête d'appeler ta femme. Oui, bon, je sais, Vincent, tu es toujours pris. Alors tu laisses tomber le téléphone pendant quelques instants. On essaye de t'avoir. Donc pour les auditeurs d'Eau de Radio, je représente Vincent Poussard. Bah, Vincent Poussard, c'est quoi? C'est un petit bonhomme d'1m75. Alors plein de dynamisme. Il est pur terroir, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que il a eu la chance de travailler à l'Élysée, d'être le chef privé de Monsieur François Mitterrand. D'ailleurs, Philippe, est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'aller à l'Élysée?
Une photo avec le chef de l'époque qui était sous Chirac, si je me souviens bien. Et donc j'avais réalisé une photo en extérieur, dans la cour intérieure, d'un fraisier. Et c'était servi avec les couverts et la vaisselle de l'Élysée, donc couverts en platine. L'assiette pièce, je sais que ça valait une fortune à l'époque, donc il fallait que je fasse très très attention. C'était un très bon souvenir.
D'accord. Et pas l'occasion depuis d'y être retourné.
Non, du tout.
Donc voilà, donc Vincent a officié pendant pratiquement 3 ans auprès de François Mitterrand. De mémoire, il est rentré par l'intermédiaire de Ségolène Royal, qu'il avait aidé lors de son service militaire pour y aller. Et après, en 94, c'est lui qui a ouvert l'Oiseau Bleu à Bordeaux.
D'accord.
En 98, il a eu sa première étoile.
D'accord.
L'Oiseau Bleu. 3 ans plus tard, il en a un petit peu ras-le-bol parce que voilà, Vincent est un homme de cœur qui ose les choses, ose casser les codes. Il aime bien quand ça ne lui convient plus de dire j'arrête, je refais d'autres choses. Vincent, je crois que t'es en ligne, je crois de t'entendre.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va très bien. Ça y est, t'as raccroché? Enfin.
Ah oui, enfin, mon téléphone est libre.
Super. Bon, écoute, merci beaucoup d'être sur les ondes d'Eau de Radio, d'être présent avec nous. Donc, j'ai fait un petit topo en disant que, tu es un homme de caractère et pur terroir, que depuis maintenant quelques années, tu as laissé, bien sûr, tomber l'Élysée, tu as laissé l'Oiseau Bleu vivre sa grande envolée toute seule, et que tu as écrit un livre pour raconter un petit peu ta vie auprès de la République, qui s'appelle Vincent Poussard, cuisinier de la République, de l'Élysée au fourneau du Sud-Ouest. C'était aux éditions Le Festin, hein, c'est ça?
Absolument. Voilà. On vient de fêter les 1 an de la sortie.
Voilà.
Voilà, on a fait à peu près 2000 ventes jusque-là, donc c'est plutôt sympathique.
Ouais, super sympa.
Et
ouais.
Voilà, en sachant que j'attends maintenant d'avoir ma feuille d'imposition pour reverser mes droits d'auteur au Resto du Cœur. Voilà, je le dis encore à l'antenne parce que au cas où les gens auraient peur que je reverse pas, c'était prévu et ce sera comme ça.
Ben voilà, comme je disais, Vincent, voilà, il a du cœur. Hein,
je crois.
C'est un homme de parole. Comme je disais, le chef Vincent Poussard, c'est un homme de parole. Donc, je disais que tu as inventé ton propre métier. Tu es maintenant on va dire showman ou show culinaire man, je sais pas comment on pourrait appeler ça.
On va dire plutôt de l'animation culinaire, absolument. Puis c'est du show parce que les vrai, je pourrais simplement commenter une démonstration de cuisine, je pourrais simplement animer un marché gourmand, mais bon, apparemment j'ai ma marque de fabrique, ma patte souvent caustique, un peu décapante, mais comme tu l'as dit, toujours gentille et généreuse, sans animosité, ça c'est à souligner parce que je ne sais pas faire du politiquement correct, ni d'ailleurs ce qu'on appelle des éléments de langage.
Ben ça, c'est bien. Ben voilà, un chef, il faut qu'il soit dur. Hein. Un chef en cuisine, c'est comment d'ailleurs, Vincent Poussard,
on peut
en
dire,
cuisine?
On peut dire les choses dans la vie correctement, sans être désagréable avec les gens. Mais bon, je pense que déjà recevoir les choses de quelqu'un de façon honnête, c'est déjà une belle preuve d'amitié ou éventuellement d'honnêteté. Voilà, on commence comme ça. Parce que le côté, moi je suis pas diplomate, je suis pas ambassadeur, je suis pas diplomate, je dis les choses. Alors c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu abrupt comme ça, mais c'est toujours avec réflexion, on se dit, ouais, le mec, mais en fait, c'est pas un méchant, mais c'est ça. Et puis dans le métier, non pas, c'est pour les jeunes aussi, c'est important, il faut de la rigueur. C'est un métier qui demande de la rigueur. Si on ne le fait pas avec rigueur, comme je dirais un musicien, un gymnaste, un athlète, un sportif de haut niveau, on le fait, j'écoutais tout à l'heure, vous parliez des Bocuse d'Or.
Oui.
Bon, Il faut savoir que si on le fait pas avec un minimum de rigueur, ben on passe à côté, quoi. Et ouais, passer à côté, c'est tellement dommage quand on sait qu'avec un tout petit peu d'effort, on est en plein.
Oui. Ah non, Vincent. Oui. Oui. Voilà. Tu disais, parce que ça a été coupé. Tu disais, c'est avec un minimum de rigueur, on passe à côté.
Un minimum de rigueur, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que je dis souvent aux gens, on fait une tarte aux pommes, puis on dit, oh, ben, ça va aller comme ça, elle est pas bien garnie. Mais non,
on va jusqu'au
bout. Ça va pas du tout. Il faut une pomme de plus.
Voilà.
Ouais, et puis la tarte sera parfaite, on sera content, on aura fait un beau travail. Et une pomme de plus, c'est quoi? C'est 1 minute 30, et puis, allez, on va dire 10 centimes de coût matière. Donc il faut faire les choses correctement. J'insiste toujours même auprès de jeunes, au lycée hôtelier, des gens. C'est pas parce qu'on voit des émissions de cuisine que c'est facile. C'est passionnant à la condition où on le fait avec amour et passion. Ça, c'est incontestable.
D'accord. Je reviens juste sur un point, bien sûr, ça va peut-être t'embêter parce que je sais qu'on revient toujours là-dessus, mais enfin pour sur nous, sur les ondes de radio, c'est la première fois qu'on t'a. Donc on va profiter de cette occasion-là. Comment on rentre à l'Élysée? Parce que tu as
dit. J'allais dire page 27 de mon livre. Non, je plaisante.
Ouais.
Non, comment on rentre?
Il faut savoir l'identité.
J'avais à peine 10-12 ans que je voulais déjà faire mon service national à l'Élysée. Tout simplement parce que j'avais vu le fils de Jacques Martin à la télévision qui avait fait son service national à l'Élysée. Je me suis dit un jour, mais pourquoi le fils de Jacques Martin et pourquoi pour celui de Jean-Paul Poussard? Sachant que j'avais Ségolène Royal, qui était député des Deux-Sèvres et qui tenait une permanence un samedi matin à la mairie de Mel où j'habite, ou dans les Deux-Sèvres, je me suis dit, je vais aller la voir, et de fil en aiguille avec Jean-Louis Bianco, avec Ségolène Royal, et patati et patata. Bon, c'est beaucoup plus long que ça, je me suis retrouvé appelé du contingent à l'Élysée. D'accord. Et puis en faisant appeler du contingent à l'Élysée, ben, le président étant des Charentes aussi, de Jarnac, etc., puis apparemment, j'avais l'air de correspondre en tant que gens de maison à la cuisine qui l'attendait.
Oui.
Mais j'ai signé, à l'issue de ma période de service national, j'ai signé un contrat de gens de maison du président de la République, responsable de la cuisine privée.
D'accord. Et le président, mais il est ce qu'il est, mais toi, quel a été, tu as dû être impressionné peut-être de ton premier plat que tu lui as apporté, ou pour toi c'était un client comme un autre?
Alors, c'est pas complètement faux ce que tu dis, Olivier, c'est-à-dire impressionné... J'avais pas de cachet que c'était peut-être ce qui m'a aidé. C'est que je dis souvent, il y a deux hommes qui m'ont impressionné dans ma vie, c'est mon père et François Mitterrand. Et impressionné, aujourd'hui, je ne referai certainement pas. Parce que je pense que j'ai bénéficié d'une espèce d'inconscience et d'insouciance à l'époque, où j'étais tellement naturel qu'il m'appelait le petit Vincent. Et quand j'avais envie de dire, monsieur le président, ça ne va pas être facile à cette heure-ci de faire ça, ou à cette saison de vous trouver tel produit. Jamais les autres auraient osé ça, alors que moi j'osais un peu d'être naturel, et c'est ce qui lui plaisait aussi. Alors impressionné, non, j'étais concentré, mais j'ai jamais, à l'époque, mesuré la grandeur de la charge qui m'était confiée, puis c'était peut-être pas plus mal.
D'accord. Est-ce que on va avancer un petit peu dans ton aventure culinaire? Je reviendrai juste sur une dernière chose là qui me traverse l'esprit. Est-ce que le film qu'on a fait dernièrement sur la cuisinière du président, est-ce que tu es allé le voir et tu as constaté des similitudes ou c'était totalement différent?
Alors, je connais très bien Daniel Mazet-Delpeux.
Oui.
Voilà, très très bien. Je l'ai rencontré au Salon du Livre Gourmand de Périgueux. On a eu un petit débat là-dessus. Daniel a fait 14 mois à l'Élysée. Elle m'a précédé.
Oui.
Bon, le film, il est remarquablement fait par Catherine Fraud. J'ai trouvé Jean d'Ormesson absolument... c'était plutôt marrant, mais quand on a connu François Mitterrand, ses mimiques, etc., bon, mais je crois que vaut mieux que Jean d'Ormesson reste à l'Académie française.
Hein, d'accord,
voilà, mais dans le cinéma.
Bien sûr, oui.
Voilà, mais ceci étant, Catherine Fraud exceptionnelle, on n'apprend pas grand-chose, c'est plutôt sympathique, avec surtout la rivalité entre la grande cuisine de l'Élysée officielle et la cuisine privée, ça c'est plutôt bien décrit. Après, le président qui descend boire un coup, c'est plutôt marrant, mais j'étais pas venu frustré, rien, hein, je suis allé le voir, j'ai trouvé le film plutôt bien fait, ni jaloux, ni rien du tout, parce que ça a le mérite d'exister, et surtout ce qui était marrant, voilà, c'était vraiment le rôle de Catherine Fraud, oui. et j'ai trouvé que franchement c'était plutôt bien fait, avec beaucoup de fair play, mais même d'honnêteté, c'était plutôt bien fait. Maintenant, dire que là on a matière à discuter sur la cuisine du président, ça a été d'ailleurs, c'est bien un écrit qui s'est inspiré de l'histoire, mais vraiment de façon très très légère.
Oui.
La preuve, c'est que les tournages à l'Élysée, il y a l'arrivée de Daniel Delpeux qui a été fait à l'Élysée.
Oui.
Le reste, c'est en studio. Mais j'ai trouvé ça plutôt marrant. Après, il y a des trucs. Mais quand on connaît bien ça peut paraître choquant ou buesque ou autre chose, mais quand on connaît pas, c'est un film qui est tout à fait honorable, qu'aujourd'hui, en plus, les biopics, c'est la mode. Moi, j'ai eu la chance, pareil, de bien connaître Pierre Durand au moment où il faisait le jumping de Bordeaux, où il était sur la région, etc., avec Japlou. Bon, ben ça m'amusait, j'irai voir le film de la même façon, et puis un film, ça reste un film, ouais, c'est plutôt sympa.
Voilà, donc en fait, il faut mieux lire le livre Le Cuisinier de la République, de l'Élysée au Fourneau, que tu as écrit aux éditions Le Festin. On trouvera peut-être plus de choses là-dedans, n'est-ce pas?
Ben disons qu'il y a... J'ai pas voulu non plus en faire un livre 100% axé sur l'Élysée. Beaucoup me l'ont reproché, on m'a dit, tu sais Vincent, il n'y a pas assez de trucs sur l'Élysée, mais je voulais pas non plus. On m'a fait confiance avec un, j'allais dire à l'époque, un secret défense, un secret professionnel. J'ai toujours fait mon métier comme il faut, à peu près comme il faut, et puis j'ai jamais cherché à déblatérer si j'avais voulu des scoops, j'en avais quelques-uns.
C'était pas forcément un scoop, c'est peut-être la vie d'un cuisinier pour connaît,
hein, c'est amusant, mais Jean de Maison, voilà, t'es toujours Maison, président de la République, on peut s'appeler Bocuse, Robuchon, voilà. Lucas, ils n'ont jamais été chef privé d'un président de la République.
C'est
complètement autre chose. Moi, j'aime beaucoup des gens comme Régis Marcon, Michel Braz, qui sont vraiment des gens que je fréquente et qui sont très sympas, etc. Après, il y a des grands noms. Je n'ai jamais idolâtré, ni badé, ni vénéré qui que ce soit. D'accord. Je respecte les gens. D'ailleurs, on me disait souvent quel est l'homme que vous respectez le plus. C'était tout simplement SL. Qui est décédé dernièrement, Stéphane Hessel, parce que bon, voilà, il y a une histoire, il y a un grand homme. Maintenant, après, j'ai pas pour habitude de bader les gens. Maintenant, il y a des gens qui font des belles choses dans la vie, que ce soit dans notre métier professionnel. Il y a des gens qui marquent l'histoire un petit peu de la cuisine, de la gastronomie, de la restauration. Le tout, c'est qu'ils soient respectueux aussi des jeunes qui forment pour demain, parce que on a un très très beau métier. Ça m'ennuie toujours quand je vois les jeunes qui s'en vont, ou qui quittent cette profession parce qu'ils sont pas considérés correctement ou pas payés correctement. C'est un petit peu dommage parce qu'on vraiment on a un métier exceptionnel et c'est pas les émissions de télévision qui vont le sauver.
Tu devances un petit peu ce que je voulais te poser comme autre question. C'est qu'aujourd'hui toi tu représentes alors à la fois les produits de la région Aquitaine, mais en même temps t'es formateur, donc tu vois gérer la nouvelle génération, ou tu donnes envie à cette nouvelle génération qui monte. Et tu en penses quoi de ces petits jeunes qui arrivent?
Mais ces petits jeunes, ils sont pas mal du tout. Il faut pas toujours... Des fois, on tape un peu en disant, ouais, de toute façon, ils sont feignants. Alors, il ne faut pas oublier que c'est eux qui payent nos retraites de demain.
Ouais.
Premier dossier.
Ouais, bon, d'accord.
Deuxième dossier... je dirais bêtement qu'un chien ressemble à son maître. Si les jeunes, quels qu'ils soient, on sait les prendre correctement, on sait les coacher, les manager, les intéresser, les motiver... Moi, j'étais pas un garçon facile, j'étais plutôt une tête de cochon. J'ai eu des costauds en face de moi qui m'ont un peu maté, on va dire.
Ouais.
Et puis j'ai réussi à me forger un caractère, à me forger un bagage professionnel. N'importe quel jeune est valable. Dans n'importe quel jeune, il y a un truc. C'est juste à nous, formateurs, professionnels, coachs, de trouver, puis de canaliser, de cadrer, d'encourager, de calmer. Et c'est... J'allais dire, c'est un métier, quoi.
Bien sûr, oui,
mais formateur, pédagogue. Voilà. J'aime pas le métier de professeur. Quand je dis le nom de professeur, je considère souvent que je suis à la fois formateur, éducateur, formateur, animateur. Et je le dis tout le temps parce que pour former, il faut déjà, c'est comme un jeune cheval, il faut déjà débourrer. Puis après, on lui apprend. Puis après, on l'aime. Et puis après, on communique avec. Ben, c'est la même chose, quoi. Les jeunes, moi, je sais qu'ils me le rendent vraiment bien, vraiment bien et vraiment fort. Et moi, j'ai envie de leur transmettre ma passion, moi, c'est clair, en sachant très bien que tous ces jeunes, ils vont pas tous faire chef de cuisine demain. Mais c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave. S'ils reçoivent 4 copains quand ils ont 35 ans et qu'ils leur font bien à manger, j'aurais gagné.
D'accord. Donc, pour toi, l'assiette de demain va devenir encore plus responsable et savoureuse?
Ben, j'aimerais bien.
Ouais.
J'aimerais bien, mais... Je voyais encore tout à l'heure des ovoproduits, pour ne parler que de ça, des jaunes d'œufs.
Oui.
Ils sont de plus en plus jaunes. Alors je me demande ce qui se passe. Je suis pas inquiet, mais j'aimerais bien que les gens se soucient de plus en plus des... On a la chance en France d'avoir une sécurité sanitaire peut-être une des meilleures du monde, mais on ne sait pas lire les étiquettes, on ne regarde pas ce qui se passe. Après,
ouais, mais
on
enfin, les étiquettes, Vincent, je t'arrête là, on va être à deux de te dire, non, stop, quoi. Les étiquettes aujourd'hui ne sont pas forcément lisibles, compréhensibles par tout le monde.
Non, elles sont en police 8.
Voilà, et puis certaines entreprises ne nous racontent pas tout non plus, quoi. Donc,
C'est certain, mais après, je veux dire, au monde aussi, de ne pas être crédule. Quand on achète un plat préparé en dessous de 2 euros, ben on se doute bien dedans, il n'y a pas le meilleur morceau du bœuf. Je veux dire, les gens, le jour où les gens, quels qu'ils soient, quel que soit leur revenu, j'insiste fort, qui accepteront de payer le juste prix pour avoir un bon produit, ça ira mieux. Si on ne peut pas manger de bar ou de turbo, eh ben on mange du maquereau de sardine, comme moi je faisais chez mes parents ou mes grands-parents, et c'est très bon un bon maquereau. Ah, si on ne peut pas manger du filet de bœuf, eh bien on bouffe un bon pot-au-feu, c'est pas mal aussi. Je veux dire, il vaut mieux manger un bon pot-au-feu de Limousine, de Bazadez ou de Salers que manger un mauvais filet de bœuf d'une viande dont on connaît pas l'origine.
Bah bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. On est déformé, dire nous, on sait très bien que on n'est pas obligé de manger tous les jours le super morceau, que les bas morceaux sont aussi bons. Des fois, on va mettre même plus d'amour à le cuisiner et on va trouver ça excellent et on va en garder des souvenirs pendant très longtemps.
Absolument. Hein?
Vincent, je te remercie beaucoup. On va juste finir notre petit échange avec Philippe Exbraya, qui est donc le photographe culinaire quand même de l'année. Il faut le savoir. Hein, et il a eu la chance lui de faire par contre tous les grands chefs. Alors je sais pas lui là comment il se fait rémunérer après, parce que je pense que il a la chance de pouvoir manger les assiettes qu'il photographie.
Non, j'ai de très bons souvenirs.
Comment on truc les assiettes quand elles sont photographiées pour qu'elles soient vraiment belles.
Et bah là,
je les mangerai pas toutes. Ça c'est la prouesse. Une assiette.
Je t'invite, Vincent.
Excellente, c'est la prouesse.
Ouais, je t'invite Vincent de venir sur une de nos prochaines séances photo et tu verras que Philippe c'est du naturel,
voilà,
du naturel et que du naturel.
On peut tout manger après. Hein,
voilà. Parce que on se fait des gueuletons de temps en temps tous les deux quand on se fait les séances photo.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Philippe c'est que du naturel, il n'y a pas de bidouillage. Non, voilà, c'est important. Et on va finir avec toi pour une petite interview pour savoir comment est le chef Vincent Poussard. D'accord.
Eh bien avec plaisir.
Merci. C'est parti.
Au revoir.
Oui. Vas-y.
Un petit interview rapide. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cuisiner?
Pardon?
Qu'est-ce qui t'a donné envie de cuisiner?
Oh, je crois que c'est la proximité des bons produits quand j'étais à la campagne chez mes grands-parents, tout simplement.
Oui, voilà, c'est la famille.
Voilà, la chasse, la pêche, les bons produits, c'était un peu primitif comme définition. Mais je crois que quand on a des bons produits, on aime bien les faire cuire. La gourmandise aussi.
La gourmandise aussi. Mais surtout, la famille, non? Si on a la chance d'avoir des parents ou des grands-parents qui ont fait une bonne cuisine régionale à l'époque, je pense que si on est sensible à ça, c'est déjà un premier souvenir culinaire, ça, non?
Ah ben c'est très clair. Je veux dire que quand on éveille les sens, je parle bien d'éveil les sens dès le plus jeune âge, moi, il n'y a rien de plus beau qu'un gamin qui me dit « Oh, j'adore ça !» Et puis alors, on regarde, on voit, c'est du brocoli, du chou-fleur, où on se dit « Qu'est-ce que... » Et c'est merveilleux. Un gamin qui commence à rien aimer et qui, à 15 ans, n'aime rien, c'est juste un handicap. Et puis même aujourd'hui, les gens qui savent pas cuisiner, je parle du tout, je les classerais presque dans le handicap, on va dire, journalier. On est manchot quand on sait pas cuisiner, puis on vit pas.
Ah oui, là, on passe vraiment à côté de quelque chose, ouais. C'est certain. Oui. Donc quand on est gosse et qu'on a la chance d'avoir des parents comme ça qui donnent envie, c'est sûr qu'après, si on est vraiment passionné, on va dans cette direction.
Déjà, on le voit tous les jours, des jeunes qui mangent bien chez les grands-parents. Souvent, je dis les grands-parents parce que qui mangent bien chez les grands-parents ou qui ont des parents qui sont gourmands ou autre chose, il n'y a pas photo, quoi. C'est marrant. J'ai jamais vu un gourmand qui faisait la gueule, moi.
Ça, c'est vrai.
Petit peu de ventre, peut-être, mais...
À côté de ça, j'ai rien contre les modes de gastronomie, que ce soit végétarien, végétalien. Bon, après, il y a des gens qui ont des allergies ou des intolérances ou autre chose. Mais j'ai été choqué une fois dans un restaurant végétarien de Paris. J'ai cru qu'il y avait un décès, ils faisaient tous la gueule. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, je comparais avec une côte de bœuf en palombière. Je me disais, mais on est dans deux mondes. Alors, je pense que même quand on mange des carottes, des légumes, il faut manger des légumes. En plus, c'est extraordinaire. Mais il faut sourire, il faut prendre du plaisir à table. Voilà. Si on prend pas de plaisir à table, je crois qu'on a, je dirais bêtement et égoïstement, c'est l'une de mes raisons de vivre.
Ah bah c'est bien.
Et alors qu'est-ce que tu aimes manger là, comme ça, vraiment?
Comme ça, je dirais en ce moment là.
Tu viendrais à la maison là et tu me demanderais de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse?
Alors c'est vachement dur. C'est je sais pas, 5, je suis excessif. 5-6 douzaines d'huîtres. Donc déjà c'est pas trop compliqué.
Ah bah là, je sais les cuisiner.
Mais lesquelles? Non mais lesquelles? Les marraines, les
Utabiches. Je vais être très dur avec la région Aquitaine. Ouais. Mais je suis des Deux-Sèvres et je bade les huîtres marraines Oléron, les spéciales, et j'avais la chance à l'époque. Alors maintenant, aujourd'hui, on travaille dans tous les sens. Les Utabiches sont merveilleuses. Et il y a même des gens chez nous, c'est-à-dire sur le banc d'Arguin, sur le bassin, qui commencent à bien travailler les huîtres. Et c'est très important. C'est l'un des produits les plus naturels au monde et c'est un truc de fou. Je dirais bêtement, en ce moment-là, des petites fèves nouvelles, des petits oignons. Hier soir, je me suis fait une omelette à l'ail. Mais on dirait que c'est... Mais avec les œufs de mes poules.
Ah ouais, c'est-à-dire l'ail... un peu moins jaune, les œufs, hein, c'est ça?
Oh là là, mais l'ail est juste croquant, fleur de sel, mais baveuse, mais c'était de la bombe.
C'est super ça, c'est excellent.
Et ça coûte 1 € pour 2 personnes. Donc c'est à un moment, il faut comprendre que manger les bons produits à la saison correctement n'est pas obligé de becquer une côte de bœuf tous les soirs.
Exactement.
Et quand je dis qu'est-ce qu'on aimerait me faire, moi je suis un gourmand, donc je vais dire qu'avec un bon pain, un bon beurre et puis une botte de radis, je me régale.
Bon, c'est parfait. On note. Merci beaucoup Vincent.
Merci.
Avec plaisir.
Au plaisir.
Continuez
de
bien les gars.
Ouais, au plaisir de se retrouver.
C'est très gentil.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et ben voilà, on va pouvoir continuer. C'est une belle rencontre là quand même, juste avant de partir, sur un peu de musique.
Bien sûr.
Hein, comme quoi être chef, ça peut ouvrir des portes assez exceptionnelles.
Oui. Je lui ai pas posé la question, sa musique préférée, mais bon.
Si, la musique on l'a eue, c'était YouTube.
Là, c'était YouTube. Pardon.
Oui, écouté. Effectivement, on aurait pu demander pourquoi, mais enfin bon, ça sera pour une prochaine fois. Georgiana, on va se faire un petit peu de pause musicale avant d'essayer d'avoir Luc Dorin.
Ré la montagne, Crazy, ça vous dit?
Ah bah oui, ça nous dit. Allez, on y va pour Crazy.
Allez, c'est parti.
Il reste beaucoup de temps. 16h, Navette. Regarde. Ça passe vite. Luc Dorin.
I
remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without care, I was out of touch. It wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life. Oh, but think twice. That's my only advice. Come on now. Who do you think you are? Oh, oh, bless your soul. Do you really think that you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me, yeah. My heroes have the heart to lose their lives out on a limb. And all I remember.
Bonjour Luc Dorin, bonjour chef pâtissier à Bordeaux, rue de Judaïque. C'est bien ça, Luc?
Bonjour Olivier.
Bon, comment ça va?
Très bien, merci.
En plein préparatif des fêtes de Pâques,
hein? Exactement, oui. Là, on est dans le chocolat à fond, jusqu'au cou.
Bon, on va expliquer que Luc Dorin, bien sûr, est le chocolatier rue Judaïque, donc à Bordeaux. En même temps, il est passionné comme tous ceux qui sont ici sur Rodeo Radio et qui parlent de cuisine et d'alimentation, alors de gourmandise. Tu as de temps en temps la chance, enfin non, pas la chance, enfin si on peut dire ça comme ça, c'est de partager avec monsieur et madame tout le monde des cours de pâtisserie à la Maison des Cinq Sens.
Voilà, tout à fait, oui.
Alors cette idée, elle t'est venue comment, de venir à la Maison des Cinq Sens?
En fait, moi déjà, je donnais des cours à des professionnels.
Oui.
Et j'avais envie de partager mon savoir à monsieur et madame tout le monde.
D'accord. Et on apprend quoi dans les cours de pâtisserie?
On apprend des gâteaux classiques, en fait. Hein.
Oui.
J'essaye d'apprendre aux gens des choses qu'ils puissent refaire chez eux.
Oui.
Ensuite, on peut apprendre aussi des choses un petit peu plus extraordinaires, des choses que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas faire. Donc, c'est un petit peu le but, hein, d'avoir la pâte du chef.
Oui.
Et jeudi, là, j'ai un cours sur le Saint-Honoré, donc on va apprendre le Saint-Honoré sous différentes manières. Voilà.
D'accord, donc avec quoi, une pâte feuilletée, une pâte brisée au démarrage, ou les petits choux et une crème chibouste, hein, ou
la pâte feuilletée, la pâte à choux, la chibouste, la crème chantilly, la crème à la vanille, la crème, enfin, différentes formes.
D'accord, bien. Et puis, donc ça, c'est... toi qui vas vers les élèves, je veux dire donc monsieur, madame, tout le monde, hein, donc Maison des Cinq Sens, Allée des Peupliers, pour ceux qui sont intéressés par tes cours de pâtisserie. Mais je dirais que tu es quand même quelqu'un d'un peu perfectionniste, parce que tu adores la sculpture et tu es tellement fou de chocolat, parce que tu es quand même chocolatier, hein, faut le rappeler, que tu fais de la sculpture sur chocolat.
Exactement, oui. Alors j'adore la sculpture, je fais beaucoup de sculptures à titre privé chez moi en terre. Et donc j'adapte la sculpture sur terre en chocolat. Je fais des sculptures. J'en ai une qui est exposée à mon magasin, qui est à Codéran, qui est à Sœur.
Oui.
Et c'est une sculpture qui fait 35 kilos, qui est une reproduction de la femme allongée de Botero.
Ah oui, bah j'ai vu ça sur Facebook, effectivement, tu avais mis quelques petites photos.
Voilà, exactement. Ah, oui.
D'accord. Mais en 2010, tu as fait un exploit quand même. Tu as su représenter la France sur le chocolat, la World Chocolate Master. Et tu avais quand même été arrivé quatrième de la sélection nationale.
C'est voilà, pas, tout à fait, hein, oui.
Voilà, faut quand même dire que on a cette chance-là à Bordeaux d'avoir des chefs pâtissiers de talent. Bon, j'en profite pour te parler, bien sûr, de la Coupe du Monde de pâtisserie. Alors, tu en penses quoi de ces trois fous dingues de pâtisserie là qui nous ont réalisé quelque chose d'assez exceptionnel? Est-ce que tu as eu l'occasion de les voir ou de voir ce qu'ils ont fait?
Ben, effectivement, on a la Coupe du Monde de la pâtisserie qui était un événement assez exceptionnel en France. Et effectivement, il y a une équipe de trois personnes qui sont un pâtissier, un glacier et un chocolatier qui font effectivement des prouesses à chaque fois. Et malheureusement pour les équipes adverses, chaque fois que la France participe à cette compétition, elle la remporte. Donc heureusement qu'une année sur le vainqueur ne veut pas se représenter à la compétition suivante, ça laisse un petit peu la place aux concurrents adverses.
Ouais.
Une compétition sur deux, parce qu'effectivement les Français brillent de leur excellence.
Alors le thème imposé cette année, c'était un buffet rond au lieu d'un buffet rectangulaire. Alors moi je suis néophyte par rapport à tout ça, et puis nos auditeurs de Haut de Radio aussi. Il paraît que c'est plus difficile de faire un buffet rond qu'un buffet rectangulaire. Est-ce que pour toi ça, tu peux nous aider en nous disant pourquoi c'est plus difficile, hein?
Bah, parce qu'en fait un buffet rectangulaire, les gens le regardent de face.
Oui.
Donc, et le buffet rond, et les gens tournent autour, donc tu dois avoir la perfection sur tous les angles.
D'accord. Ah ouais,
donc
d'accord.
Là, c'est extrêmement complexe, effectivement.
D'accord. Alors, je vais quand même juste dire, hein, ce qu'ils ont dû faire, parce que voilà, c'est quand même impressionnant. Ils ont travaillé pendant 10 heures. Ils ont dû faire 3 entremets au chocolat de composition identique, dont un entremet de présentation pour 6 personnes s'intégrant dans une pièce artistique en sucre et 2 entremets de dégustation pour 10 personnes, soit une portion étant de 75 grammes à 125 grammes. Alors déjà, comme ça, la première épreuve, c'est quand même quelque chose d'hyper complexe. On se rend compte que par rapport à la cuisine, on est beaucoup plus technique en pâtisserie. Hein.
Là, on est dans l'excellence, attention.
Hein, oui, bien sûr. Voilà, on est dans l'excellence, mais bon, ouais. Quand on va parler tout à l'heure avec d'autres chefs cuisiniers sur le Bocuse d'Or, on va se rendre compte qu'on est un petit peu moins dans la complexité. Alors après, je continue encore. Hein, 3 entremets glacés aux fruits de composition identique, bien sûr. 2 un entremets de présentation pour 6 personnes, s'intégrant toujours dans une pièce hydrique sculptée. D'ailleurs, ça veut dire quoi, une pièce hydrique sculptée Monsieur...
En fait, c'est un bloc de glace qui est sculpté, transparent comme du verre, et sur lequel on présente l'entremets glacé, effectivement.
D'accord. Oui, d'accord, très bien. Donc, toujours un entremets de dégustation pour 10 personnes avec une portion qui va de 100 grammes à 140 grammes. On continue, 12 desserts à l'assiette, identiques, dont un pour la présentation, s'intégrant dans une pièce artistique en chocolat, et 11 desserts à l'assiette pour la dégustation, un pour 2 membres du jury. Une pièce artistique en sucre de dimension maximum de 125 cm de hauteur. Pas une de plus, pas une de moins. Ça doit être marrant de voir d'ailleurs toutes ces toques-là qui doivent mesurer. Ça doit être rigolo quand même. Hein. Une pièce artistique en chocolat de dimension maximum pareille à 125 cm de hauteur. Et enfin, une pièce artistique en glace hydrique sculptée. Voilà, en 10 heures, ils ont bossé comme des dingues quand même.
Oui, ils ont bossé comme des dingues, oui, effectivement. Bon, après, ils sont hyper, hyper entraînés. C'est des choses qu'ils ont répétées exactement. Et donc la grande nouveauté qu'il y avait cette année, c'était que, comme tu l'as indiqué, il y avait une hauteur à respecter, mais les autres années, ils avaient également une largeur à respecter. Cette année, ils n'avaient pas de largeur à respecter, ce qui veut dire que les pièces ont été dans des dimensions extraordinaires et ils ont pu s'exprimer vraiment pleinement.
Voilà, on voit comme les invités allaient se connecter sur le site du Sierra, parce que ce qu'ils ont fait, c'est une représentation de la Formule 1, enfin surtout des 24 heures du Mans, où tout était imbriqué, plein de couleurs, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et toi, quand tu fais tes concours, tu te prépares combien de temps à l'avance? Est-ce que tu as un coach? Comment ça se passe?
Alors, pour des concours de ce type-là, il faut se préparer. Déjà, il y a des éliminatoires 2 ans auparavant. Donc, en règle générale, il y a facilement 2 ans de préparation.
Oui.
Et bien évidemment, il y a toute une équipe qui coach l'ensemble des participants. Oui.
D'accord. Eh ben, écoute, nous on va te laisser à nouveau dans ton chocolat de Pâques. Qu'est-ce que tu es en train de préparer aujourd'hui pour Pâques? Quel est ton produit phare à la maison Dorin?
Alors pour Pâques, tous les ans, je fais des œufs avec un thème différent pour lequel tous mes œufs sont décorés. Cette année, le thème de Pâques, c'est les smileys. Donc pour donner un petit peu le sourire aux gens, tous mes œufs sont décorés avec un petit smiley.
D'accord. Donc on va se précipiter à la pâtisserie Dorin pour retrouver du sourire avec le chocolat, avec les petits smileys. Ouais. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu un petit... Tu avais fait un canard ou un coq avec un smiley, j'ai vu ça dernièrement. J'ai trouvé ça assez sympathique, effectivement. Ouais. Plein de couleurs, plein de gaieté pour Pâques. Je trouvais ça très, très rigolo. Luc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur Eau de Radio, sur l'émission Éthique et Toc. On finira par Philippe Exbraillat, qui va te poser 2-3 questions... on va pas dire intime, mais pour découvrir un petit peu plus le personnage professionnel. Et je te dis à très bientôt à la Maison des Cinq Sens.
À très bientôt, Bordeaux. Olivier.
Ouais, merci Luc, au revoir.
Merci, au revoir.
Bonjour Luc.
Bonjour.
Juste une petite question, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le chocolat?
Qu'est-ce qui m'a fait tomber dans le chocolat? Mais en fait, quand on pratique la pâtisserie, on fait un petit peu de chocolat, donc... Lors de mon cursus, dès que j'ai touché ces éléments au chocolat, j'ai trouvé que c'était tellement magique que j'ai pas voulu quitter. Et d'année en année, j'ai plongé pour être complètement chocolatier. Et complètement chocolaté.
Ton livre préféré sur le chocolat? J'ai une petite idée, mais je vais te laisser répondre.
Mon livre préféré sur le chocolat?
Oui, sur le chocolat, oui. Il y en existe. Alors, plus généralement les desserts, mais... le sucré, mais un livre vraiment qui t'a donné aussi envie de faire ce métier. Non,
ça t'a... C'est plus la rencontre avec des gens que des livres qui m'ont donné vraiment envie de faire ce métier. Mais
il y a un livre, c'est une personne.
Il y a énormément sur le chocolat, mais il y a un livre tout particulier qui est extraordinaire, qui est très pointu. C'est le livre de Jacques Barrel sur le chocolat, effectivement.
D'accord.
Qui est un scientifique du CIRAD de Montpellier, effectivement, où où là, on a envie de plonger dans cette matière quand on lit ce livre.
Et je présume que quand tu travailles en musique, ça t'arrive?
Ça m'arrive.
L'inspiration.
Tu as une musique préférée? Des machines qui font un petit peu de bruit, mais autrement, on travaille
avec. Ah oui, effectivement. Non, c'était juste pour savoir si tu avais une musique préférée, qu'on la fasse passer à l'antenne, une fois raccrochée.
Alors moi, la musique, je suis un peu rock, donc j'écoute forcément de la musique rock, ça me donne des lampes.
Pourquoi pas sur Odo Radio, pourquoi des musiques, il y a des émissions rock et tout sur Odo Radio. Oui. Alors c'était quoi ton émission, ta musique rock?
Ah moi, je suis un fan de Noir Désir.
De Noir Désir et une chanson particulière?
Ah, Tostaki.
Eh ben écoute, Georgiana va nous trouver ça. Elle est en train de chercher, là, elle est en train de me faire des grands signes, non pas maintenant, mais si, je lui lance le défi. Elle va nous trouver ça avant la fin de l'émission, et puis on la passera pour finir notre émission en pensant à toi.
D'accord.
Voilà, Luc, on te remercie bien.
Merci beaucoup.
D'avoir été avec nous cet après-midi. Et on rappelle qu'on peut donc trouver les petits smileys du chocolat pour égayer le jardin à la maison d'Orin. Rue Judaïque, et voilà. La deuxième adresse, tu me le rappelles?
Alors la première adresse c'est le 225 rue Judaïque, et la seconde c'est le 149 rue Pasteur à Codéran.
Très bien, à très bientôt, bonne fête de Pâques à toi et à toute ta famille, au revoir Luc.
Au revoir. Merci, au revoir.
Bien, ben, juste avant de continuer, donc Georgiana, un petit défi de nous trouver la musique pour Luc d'Orin, Noir Désir. C'est parti.
Nous, on va télécharger justement.
Ça y est, tu es parti. C'est super. Alors, on va juste lancer une petite brève avant de finir en fait notre émission, parce que je vois qu'on avance très très vite. On était bien là, calé dans les cuisines et tout.
Oui, c'est vrai.
Il nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais juste finir par une petite brève qui vient de nous tomber. S'il y a des amateurs de cuisine qui ont plus de 18 ans et qui ont envie d'être élus le meilleur hôte de la semaine, il y a les dîners Pasque Parfait qui reviennent sur la région de Bordeaux et aux alentours de Bordeaux, jusqu'à 20 km. Donc voilà, si vous êtes un majeur, vous aimez cuisiner, vous voulez vivre une aventure d'une semaine entre Bordelais, alors inscrivez-vous avant le 31 mars sur le site de bordeaux.m6@gmail.com. Je répète, bordeaux.m6@gmail.com, ou appelez Ghislaine au 01 41 92 64 56, voire Camille au 01 41 92 39 73. Et là, vous aurez peut-être la chance de gagner 1000 euros pour être élu le meilleur hôte de la semaine. Bien, est-ce que nous avons en ligne notre dernier chef, qu'on attendait, Thomas L'Hérisson? Non, Georgiana, tu es en train de l'appeler. On va parler un petit peu de Thomas L'Hérisson, qui est donc le propriétaire de l'auberge Saint-Jean à Saint-Jean-de-Blagnac. Et je crois que tu le connais très bien, Philippe, ce jeune chef.
Oui, c'est un ami. Et c'est vrai que son établissement est vraiment très, très bien placé.
Oui. Et puis, il a fait de superbes rencontres, des grandes maisons. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, sa carrière.
Oui. Il est passé par Thierry Marx.
Oui.
À Pauillac, il était, je crois, au Crillon.
Oui, Eric Fréchon, tout à fait.
Eric Fréchon, voilà.
Et Guy Martin. Donc, moi, j'ai lu un petit peu sa biographie. Il a dit que Thierry Marx, c'est lui qui l'a aidé à conceptualiser ses recettes.
Oui.
Après, il a dit que Eric Fréchon l'a énormément aidé pour la technique et puis le fameux l'assaisonnement. Je crois qu'on l'a en ligne, donc il va peut-être même nous entendre. Ah, oui. Oh, oui.
Voilà. Allô.
Allô, Thomas.
Allô.
Oui, bonjour, allô, chef. Thomas.
Bonjour, chef.
Bonjour. Alors, comment s'est passé ce service?
Oh, ça va toujours. Il faut toujours que ça aille, de toute façon.
Bon, alors, c'est l'essentiel. Bon, on a de la chance. En tout cas, on va pouvoir terminer l'émission ensemble. Donc, c'est déjà parfait. Super.
Voilà.
Voilà. On était en train de parler un petit peu du parcours du chef Thomas L'Hérisson. Donc, on a résumé rapidement Thierry Marx, Eric Fréchon et Guy Martin en disant que Thierry Marx vous a beaucoup aidé sur la conceptualisation des recettes.
Tout à fait. Et puis, il m'a mis le pied à l'étrier pour la pâtisserie aussi.
D'accord, tout à fait. Puis, Eric Fréchon, ça a été pour la technique et le fameux l'assaisonnement qu'on a
goûté. C'est ça.
Voilà, on a parlé tout à l'heure avec le chef Romain Kurch. Ouais. Qu'est-ce que c'était que l'assaisonnement? Et enfin, c'est Guy Martin qui vous aurait peut-être donné la fibre commerciale un petit peu, c'est vrai ça?
Commercial peut-être pas, mais au moins le business du métier, et puis surtout essayer de se projeter vers les gens et essayer de de faire au mieux pour nos clients.
D'accord, c'est-à-dire le côté relationnel avec la clientèle, c'est de faire sortir le chef de ses fourneaux, quoi. Hein.
C'est ça.
Très bien.
Bon, ben, dis-moi Thomas, c'est Philippe.
Bonjour mon Philippe.
Tu m'as reconnu, je pense. Je voulais savoir, tu es sur quelle création en ce moment?
Là, on vient de relancer un petit changement de carte puisque j'ai passé quelques jours de vacances.
Oui.
Et puis, on a renouvelé un peu la carte jeudi, puisqu'on a rouvert jeudi.
Oui, ah oui, c'est tout.
Mais récent. Bon, après, c'est la saison, je dirais, un peu creuse en termes de produits, puisque l'hiver est pas vraiment parti et le printemps n'a pas vraiment commencé.
D'accord.
Donc, on est un peu entre deux. C'est le mois bâtard, là.
C'est-à-dire qu'on est entre le chou-fleur et la fève qui est en train de sortir, quoi.
C'est ça, ou entre le navet et l'asperge.
Ah, voilà, c'est ça aussi, ouais, voilà.
Ah, ben, comme tu me parles d'asperge, tiens, j'ai fait une très très belle photo d'asperge. Il n'y a pas longtemps là.
Ah, ça.
Ouais, des belles asperges vertes et puis des citrons de Menton.
Ah bah oui, ça va. Ouais, bien sûr, ça fonctionne.
Une petite question là, je vous entends tous les deux discuter. Donc le chef Thomas Lérisson, il s'attache aux produits du terroir.
J'essaye de m'attacher aux produits locaux le plus possible. Après, on a la chance d'être un terroir où tout pousse à peu près correctement. Si ce n'est les bananes et les oranges, mais enfin, dans l'ensemble, on n'est pas trop mal lotis quand même.
D'accord. Et j'ai cru comprendre, parce que tout à l'heure, vous en parliez par rapport à la pâtisserie, vous êtes capable, dans votre restaurant, d'être à la fois le chef, je dirais, du salé et à la fois le chef du sucré, parce que vous avez des talents de pâtissier.
Oui. Des talents, je sais pas. Disons que j'ai appris la pâtisserie. Nous, on est une petite structure. On n'est pas très très nombreux en cuisine, donc il faut s'attacher à pouvoir tout faire et offrir une prestation la plus complète possible à nos clients. Donc le dessert en fait partie, c'est la fin du repas, il faut qu'ils partent sur quelque chose avec une bonne impression sur les desserts.
Et c'est bien vrai, parce que des fois on est un peu déçu dans certains restaurants où on se rend compte que le chef, il est pas, alors le terme doué va être un peu fort, mais disons c'est pas son dada d'aller dans la pâtisserie. Et c'est vrai qu'on peut partir avec une mauvaise impression.
Bah, c'est parfois vrai. Après, il faut savoir que la cuisine et la pâtisserie, c'est deux mondes complètement différents. La cuisine laisse plus de liberté dans la création. On peut toujours bidouiller, rattraper les choses. En pâtisserie, c'est pas le cas. La pâtisserie, c'est de la précision, c'est les peser. Et en général, quand on fait une recette, on ne sait qu'à la fin si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà, c'est deux esprits différents et qu'il faut pouvoir passer de l'un à l'autre et travailler les produits de façon cohérente.
Et c'est vrai que quand je suis venu manger à plusieurs reprises là chez toi, j'ai eu ce sentiment que tu ne faisais qu'un. C'est-à-dire que tu étais vraiment complémentaire dans les deux domaines, en salé et en sucré. Et je trouve qu'en en sucré, franchement, tu excelles vraiment au-dessus de la moyenne, quoi. Donc on s'en va, on est vraiment satisfait, quoi. C'est moi je dis bravo à ça, parce que c'est pas dans toutes
mais d'ailleurs ça me frustre un peu moi personnellement, parce que généralement les clients quand ils partent me parlent des desserts et j'ai l'impression qu'ils oublient ce que j'ai pu faire avant le dessert.
Ah non, pas moi.
Donc c'est vrai que j'ai l'impression de me dire mais les desserts étaient très bien, soit, mais et le reste. Mais bon, après je les excuse. C'est vrai qu'ils finissent sur ces notes sucrées et qu'on reste toujours sur le dernier souvenir ou le dernière chose qu'on a mangé et voilà. Mais enfin, je préfère ça que qu'ils me parlent pas et qu'ils soient pas contents. Donc je suis plutôt satisfait quand même qu'ils parlent des desserts.
D'accord. Aujourd'hui, vous voyez comment la cuisine, l'avenir de la cuisine en France, comment vous la voyez?
Ben, l'avenir de la cuisine, disons que la cuisine est plutôt à la mode. On le voit suffisamment dans les médias, à la télévision. Après, il faudrait pas que ça devienne indigeste et qu'on en voit trop et que les gens n'aient plus envie de faire la cuisine. Après, il y a un regain pour les gens à cuisiner, à faire la cuisine eux-mêmes. Il faut pas oublier qu'il y a eu une génération sacrifiée de jeunes femmes qui n'a pas forcément appris à faire la cuisine,
ouais.
et donc qui n'a pas pu apprendre à leurs enfants.
Ouais. Il manque un relais.
C'est vrai qu'il y a un regain pour les produits locaux, pour le plaisir du partage à table, ce qui est très important aussi, parce que passer une soirée à table avec des amis, je pense qu'il n'y a rien de mieux.
D'accord. Bon, bah, je suis d'accord avec vous, effectivement, qu'aujourd'hui, il manque un relais. Il a manqué, en tout cas, un relais. Je trouve que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la cuisine et surtout aux produits qu'il y a dans le quotidien. Je trouve qu'on retourne vers les marchés, vers le côté des maraîchers, voire même les AMAP ou ce genre de produits. Et je trouve que c'est intéressant et que vous, chef, vous avez aujourd'hui beaucoup de chances de retravailler la jeunesse parce que c'est eux qui vont être vos futurs clients et ils vont vous permettre de continuer, je trouve.
Oui, après, ce qui peut être plus inquiétant, c'est que effectivement les gens on retrouve le goût des produits, mais j'ai peur que ce soit les producteurs qui viennent à manquer d'ici oui. quelques années, parce oui. que maraîcher, c'est un travail difficile. J'en discutais pas plus tard que samedi soir avec un maraîcher pas très très loin de chez moi. Et justement, ils ont du mal à ce que leurs entreprises ou leur carré de terre soit repris et soit cultivé. Et si vous prenez un marché comme Libourne, par exemple, que je connais plutôt bien, puisque j'y vais au moins deux fois par semaine, des producteurs, des maraîchers sont de plus en plus rares, ce sont souvent des revendeurs. Et donc, ça risque de devenir compliqué d'ici quelques années pour trouver des vrais producteurs qui fassent un peu
c'est de... une catastrophe.
Ou alors, ça sera des producteurs très spécialisés.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, effectivement. On va bientôt nous rendre l'antenne, mais on va quand même finir par une interview que Philippe attend avec impatience. Là, je le vois piétiner, me disant...
Tout à fait.
Il me reste que 3 minutes.
J'ai des questions très pertinentes.
Des questions très pertinentes. En tout cas, moi, je voulais dire merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous sur Eau Radio.
Avec plaisir.
Et puis, avec plaisir de se retrouver. On aura l'occasion de se voir bientôt, parce que moi, je prends rendez-vous juste après l'émission avec la maison de l'auberge Saint-Jean à Blagnac pour pouvoir déguster ce que Philippe n'arrête pas de me raconter depuis des mois. Voilà. Donc je dis à très bientôt, chef.
À très bientôt, Olivier, merci.
Dis-moi, Thomas, ta plus grande émotion, c'est une recette que tu as créée ou une recette d'un autre ?
Ma plus grande émotion, je dois admettre que j'ai pleuré une fois sur un plat. C'était assez loin, c'était à Chicago, chez un cuisinier qui s'appelle Charlie Trotters, qui a fermé son restaurant il y a pas si longtemps. C'était il y a une petite quinzaine d'années, et en fait, je m'en souviens encore, c'était une soupe de foie gras au cumin et à l'artichaut, et ça m'a laissé, c'était une des plus belles choses que j'ai goûtées.
Ah, dis donc.
Et j'en ai versé une petite larme, donc
on y serait bien allé ce soir, mais c'est un peu loin.
Sans
et puis ça a fermé.
Philippe. Et quel âge vous aviez, chef, à cette époque-là?
Oh, j'avais une vingtaine d'années, 25, 26, un truc comme ça.
Grand garçon, tu as pleuré?
Eh oui, qu'est-ce que tu veux? On est sensible, hein. Pour faire un cuisinier, il faut un cœur, hein.
Ah oui, tout à fait.
Et un petit coup de gueule sur la malbouffe, là, ce moment, là.
Sur la malbouffe?
Bah oui. On est entouré de mauvaises nouvelles là-dessus.
Un petit coup de gueule, ils savent pas ce qu'ils perdent. Après, les facteurs sociaux sont un peu compliqués. Les gens ont pas forcément d'argent ou ne veulent pas mettre l'argent au bon endroit et se donner la peine. Donc, la malbouffe, je pense que ça existera toujours et tant qu'il y aura des gens qui voudront faire du fric, il y aura toujours de la malbouffe.
Eh bien,
privilégieront le côté financier plutôt que le côté qualitatif.
Bah Thomas, on va finir sur ces belles paroles.
Avec
merci,
plaisir.
Non mais paroles, mais avec des actes aussi, je le sais derrière.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est très gentil.
À très très bientôt.
À très très bientôt, Thomas.
On va être obligé de rendre l'antenne là, Philippe. Tu sais ça. Mais avant de finir,
merci messieurs.
Merci, à très bientôt, Philippe. Juste
au revoir.
Juste une chose, Philippe. On va quand même parler un petit peu de toi. Je sais que tu as le 4 juin une exposition de 20 photos au tableau à Paris à l'hôtel Lutetia sur le thème Un sens à la vie.
Voilà. Donc, je fais un petit appel à tous les passionnés de photos et les passionnés de cuisine. Ils seront les bienvenus. Le vernissage est le 4 juin à l'hôtel Lutetia à Paris. Et voilà, je vous convie de venir passer un bon moment avec nous.
Tu as des photos, bien sûr, que tu as, la photo qui t'a fait promouvoir comme meilleur photographe. Tu
l'as
exposé ou pas?
Voilà, c'est le triptyque sur l'œuf, qui explose. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai gagné le concours international de la photo culinaire.
Eh bien, donc le 4 juin à l'hôtel Lutetia à Paris, on pourra donc voir tes talents d'œil photographique, parce que franchement, tu as beaucoup de talent. Ça, c'est bien vrai.
C'est gentil.
Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Ici, on dit les choses, elles sont vraies, les choses. Voilà, quand elles sont mauvaises, on le dit aussi d'ailleurs, mais là, c'est super. Donc, le thème, c'est un sens à la vie.
Tout à fait.
Et moi, je vous dis à très bientôt sur notre émission.
Un instant, Olivier, on a oublié bien la chanson.
T'as trouvé la chanson?
J'ai trouvé la chanson.
Bah, super.
Et
Luc,
chose promise.
Chose du Ben Luc, voilà, ta chanson.
Ben voilà, la chanson Noir Désir.
Noir Désir, on va finir là-dessus.
Voilà.
Et moi, je vous dis à bientôt, parce que notre prochaine émission sera le 27 mai, Étiquette Talk, donc le 27 mai. On vous y attend tous ici sur O2 Radio. On vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
À la télé, sage, soyons désinvoltes, ayons l'air de rien.
Merci d'avoir écouté cette émission sur O2 Radio, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds Européen d'Intégration. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site internet www.odoradio.net, onglet FEI.